Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Le 3 février de cette année 2009, il y aura donc tout juste 100 ans, que naissait la philosophe française Simone Weil. Née à Paris, dans une famille juive non pratiquante, Simone Weil étudie au lycée Henri IV avec le philosophe Alain. Suivant le modèle de son frère, brillant mathématicien, elle entre à l'école normale supérieure et passe son agrégation de philosophie en 1931. Elle enseigne ensuite au Puy, à Roanne, à Saint-Étienne, où elle se rapproche de la classe ouvrière. Elle écrit ses premiers essais, Oppression et liberté, en confrontant sa conception du marxisme avec la réalité du travail qu'elle expérimente ensuite dans les usines Alstom et Renault. Toujours en quête d'absolu, Simone Weil rejoint le Front républicain espagnol. C'était en 1936. Elle connaît sa première révélation mystique à l'abbaye de Solesmes, 2 ans plus tard. Dès lors, elle veut comprendre, elle n'a de cesse de comprendre la volonté de Dieu et de l'articuler intellectuellement avec ses propres expériences religieuses. Elle donne dans « Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu » une interprétation mystique de la religion chrétienne, pleine de son désir de sacrifice. En 1942, forcée de se réfugier aux États-Unis, Simone Weil refuse de quitter ses compatriotes et revient aider les forces françaises libres en Angleterre. Atteinte de tuberculose, elle s'éteindra, se laissera mourir à 34 ans dans un sanatorium anglais à Ashford le 24 août 1943. La Vierge Rouge, Monstrum Horrendum, Lazare, la Martienne, Dirty, tels furent quelques-uns des qualificatifs peu amènes, il faut le reconnaître, dont ses contemporains l'affublèrent. On a voulu voir en elle une femme de génie, un Ézéchiel, ou un Isaïe féminin, ou une possédée, ou une sainte, une folle, et pour les plus généreux, une mystique. Certains ont avoué être fascinés par sa laideur, d'autres au contraire, les mêmes parfois lui accordent la grâce et la beauté. Femme d'exception, devenue objet de culte, ses opinions catégoriques, ses outrances, son désir passionné de vérité, son ironie mordante, ses sarcasmes parfois, mais aussi la douceur de son autorité naturelle, séduisent autant qu'ils dérangent, irritent, indignent. Pour certains, elle fut une lumière, une référence. Dotée d'un formidable appétit de savoir, la tête aussi bien faite que pleine, aucun domaine, philosophie, politique, histoire, science, religion, art, langue et questions sociales n'échappe à ses investigations. Je viens de vous lire un extrait du livre écrit par Sylvie Courtine de Namy qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Nous évoquons aujourd'hui, devant les micros de Canal Académie, la philosophe française dont on célèbre en ce début d'année 2009 la date anniversaire de naissance, Simone Weil. Près de nous également, Laure Adler. Laure Adler, journaliste, écrivain. Laure Adler a animé, vous le savez, de nombreuses émissions littéraires, de débats, tant à la radio qu'à la télévision. C'est une femme de communication et d'écriture. Elle a dirigé pendant 6 ans France Culture. Elle a assuré des fonctions éditoriales chez Grasset, au Seuil, actuellement chez Actes Sud. Elle est par ailleurs l'auteur de nombreux livres de fiction, de non-fiction, parmi lesquels « Dans les pas » de Hannah Arendt, À ce soir, Marguerite Duras chez Gallimard, également L'année des adieux chez Flammarion ou encore Les femmes politiques. Sylvie Courtine de Namy, vous êtes docteur en philosophie, traductrice, spécialiste de Hannah Arendt, vous aussi. Vous avez écrit, traduit l'œuvre d'Hannah Arendt. Vous êtes chercheur associé à l'EA 4117. Expliquez-nous, c'est quoi culture juive d'Europe et de Méditerranée?
Même en sortant la carte de visite, je ne pourrais pas vous expliquer parce que c'est un titre tellement long qu'on a décidé de le contracter en EA 4117.
Et ça correspond.
Europe du Nord, de la Méditerranée et d'ailleurs. Donc c'est tellement long, ça prend 3 lignes que.
D'accord.
Voilà. Donc c'est un laboratoire associé du CNRS à l'École pratique des hautes études et. J'y travaille.
Très bien. Vous avez fait paraître chez l'Harmattan, notamment Écoute Nathan, Promenade en Eretz, Israël. Aux éditions du Cerf, Simone Weil, La quête de racines célestes, Le visage en question, de l'image à l'éthique, aux éditions La Différence. Et là, vous interrogez la relation d'Emmanuel Lévinas à l'art pictural en 2004. Voilà. Alors, avec nous également devant les micros de Canal Académie, Sylvie Veil. Sylvie, vous venez de faire paraître aux éditions Buchet-Chastel le livre intitulé « Chez les Veil » et vous nous faites confidence de cette vie animée, de cette vie trépidante, intellectuellement, sentimentalement, chez les Veil. L'enracinement, c'est la dernière grande œuvre à laquelle se consacre Simone Veil, une œuvre qui restera inachevée. Alors, pourquoi cette notion d'enracinement vous a parlé ? Pourquoi votre livre s'enracine-t-il dans cette notion de déracinement et enracinement, Sylvie Courtine de Namy ?
J'espère que le livre s'enracine. En tous les cas, je vous remercie de le dire. Parce que mon fil directeur est effectivement la dialectique, ou disons le balancement, le mouvement entre l'enracinement et le déracinement que je vois à l'œuvre chez Simone Veil. Si vous voulez bien, je vais d'abord un petit peu expliquer mon titre, qui peut paraître paradoxal aux auditeurs. Simone Veil, la quête de racines célestes. Ça peut paraître effectivement paradoxal dans la mesure où on a plutôt l'habitude d'entendre que le terme racine renvoie plutôt à la terre et même à ce qui est sous la terre et ce à partir de quoi une plante puise sa nourriture, sa substance pour croître. Au sens figuré également, le mot de racine désigne les origines, à la fois le lieu et le temps. Et enfin, une expression qu'on voit tout le temps dans les médias et qu'on entend tout le temps dans les médias à l'heure actuelle, hélas, c'est le terme de déraciner pour désigner ceux qui ont été contraints de prendre l'exil du fait des migrations, des déplacements contraints de population et leur lot de souffrances. Bon, la question qui m'anime, enfin il y en a plusieurs, mais disons la question qui m'anime essentiellement dans ce livre, c'est de savoir comment il se fait que cette philosophe qui a écrit ce livre majeur en 1943, dans les derniers mois de sa vie, que Camus a intitulé « L'enracinement », et qui n'est pas tout à fait qui n'est pas le titre que Simone Veil lui avait donné, mais on l'a gardé en sous-titre, à savoir prélude à une déclaration, non pas des droits, mais des devoirs envers l'être humain. Donc comment se fait-il que cette philosophe qui écrit l'enracinement, du fait qu'elle a diagnostiqué comme étant la maladie de l'époque, sous le label de... Elle lui a donné le nom de déracinement. Donc l'enracinement, le livre qu'elle écrit en 1943, est destiné à porter remède au mal diagnostiqué par Simone Veil. Or, il se trouve que parmi les besoins de l'âme qu'elle énumère, ils sont au nombre de 15, je vous épargnerai, mais le plus important, c'est le besoin d'enracinement, dit-elle. C'est aussi le plus méconnu et le plus difficile à définir. Et pourtant, Simone Veil s'attache à le définir, et si vous me le permettez, je vais vous lire cette définition. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Ma question est, compte tenu de cette définition, pourquoi est-ce que Simone Veil ne parvient pas pour elle-même, pour sa part, à s'enraciner d'abord dans les milieux naturels qui sont les siens, dans aucune des collectivités, puisqu'elle prononce le mot de collectivité dans sa définition de l'enracinement, dans aucune des milieux, dans aucune des collectivités auxquelles elle appartenait de fait, à savoir la bourgeoisie juive, le judaïsme, le corps enseignant. Ma deuxième question dans le livre est comment se fait-il qu'elle ne s'enracine pas davantage
dans l'église chrétienne ?
Pas tout de suite, si vous permettez, dans les milieux qu'elle est amenée à explorer. Je pense au syndicalisme révolutionnaire. Bon, elle est une ardente militante de première heure, mais très vite, la révolution lui apparaît comme un opium du peuple. Elle s'en prend aux syndicats ouvriers qui ont trahi leur mission, dit-elle, en 1943, en négligeant la protection des malheureux et notamment les conditions de l'apprentissage pour les jeunes ouvriers pour se focaliser uniquement sur la défense des intérêts. C'est d'ailleurs très actuel. Et il y a un seul syndicat qui trouve grâce à ses yeux, c'est la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Elle va même, en 1943, jusqu'à préconiser la suppression des partis politiques. Il faut dire d'ailleurs que Simone Veil n'a jamais adhéré à aucun parti politique, même si sa sensibilité était, il va sans dire, aller vers la gauche. Elle voit dans les partis politiques en 1943 des organisations totalitaires, des organisations de propagande qui ne peuvent qu'étouffer la pensée propre. Donc, pas d'enracinement dans le syndicat, pas d'enracinement dans les parties. Elle est amenée à explorer un monde qui, par nature, lui est étranger, puisque, comme je viens de le dire, elle est née dans une famille bourgeoise. Elle se déclasse pour aller vérifier sur le terrain, et c'est d'un courage admirable, un certain nombre d'idées théoriques. Donc, elle se fait ouvrière pendant 8 mois. Elle y subit l'expérience de ce qu'elle appelle l'exil, l'esclavage et le déracinement. Il n'y a pas besoin, pour subir le déracinement, d'être expatrié, disons. Les ouvriers subissent sur place le déracinement, par rapport à ce complément qu'est la pensée. Ce complément pour faire un homme complet. Il ne suffit pas de s'affronter à la matière. Pour Simone Veil, être un homme, c'est combiner à la fois la matière et la pensée. Ensuite, elle fait, vous l'avez dit tout à l'heure, l'expérience du monde agricole. Elle en partage les travaux et les jours jusqu'à l'épuisement physique. Et c'est très, très émouvant. Et bon, si la scission entre le corps et la pensée est moindre, elle existe quand même. Mais je veux dire, ce sont des expériences, le monde ouvrier et le monde agricole. Et pour autant, je ne voudrais pas du tout que vos éditeurs croient que je minimise ou que je dénigre ces expériences. Mais pour autant, Simone Veil n'y passe qu'un temps. Elle n'est pas condamnée à vie et elle ne souhaite pas prolonger au-delà de ce qu'elle a prolongé au-delà, ces deux expériences. Donc là non plus, on ne trouve pas de milieu. Et puis, il y a aussi le mouvement de la résistance, qui a été d'ailleurs un milieu, mais dont elle démissionne un mois, je crois, avant sa mort, en juillet 43, ou en juin, enfin peu importe, mais tout près de sa mort, alors qu'elle était rentrée dès 1940, lors de l'exode à Marseille, et qu'elle avait diffusé les cahiers du témoignage chrétien. Donc là aussi, les dissensions personnelles qu'elle méprise, qu'elle estime méprisables entre les généraux Giraud et De Gaulle en Afrique du Nord. Donc dès lors qu'elle voit que leurs intentions ne sont plus aussi pures que ce qu'elle croyait, elle fait savoir qu'il s'agit là de fascistes. Elle prononce le mot et elle envoie une lettre de démission assez carabinée, pour le dire comme ça, je trouve pas d'autre mot. Enfin, dernier milieu dans lequel elle aurait pu s'intégrer, effectivement, c'est le judaïsme, ses ascendances judaïques, et ce qui n'est pas le cas, elle le récuse. Et paradoxalement, alors qu'elle prétend, qu'elle écrit, il n'y a rien de péjoratif dans le mot prétendre, alors qu'elle écrit au père Perrin être née et avoir, pour ainsi dire, grandi dans l'inspiration chrétienne, elle ne parvient pourtant pas à franchir le seuil de l'Église et à demander le baptême pour autant qu'on sache. Donc voilà, c'est ça mes questions, c'est ça qui m'interroge.
Et alors, vous terminez toute cette série de questions par une très belle phrase, peut-être parce que seule la lumière qui tombe continuellement du ciel fournit à l'arbre l'énergie qui enfonce profondément dans la terre les puissantes racines. L'arbre est en vérité enraciné dans le ciel. Ce sont ces paroles
et on retrouve, non pas la citation elle-même, mais cette idée dans le Timée de Platon. Donc, je veux dire, cette question, enfin, on a couru à la fin, mais je veux bien, cette question, c'est effectivement ma dernière question dans l'épigorgue, à savoir, est-ce que l'enracinement est vraiment un texte politique? Ou bien, je le pense sur un certain plan, mais est-ce que, puisqu'il y a des mesures très pratiques pour remédier aux maux que Simone Veil a décrits précédemment dans les parties précédentes, il y a des remèdes très précis et très intéressants d'ailleurs, et dont on a tiré profit dans notre société, comme par exemple la formation, l'alternance du travail, enfin bien des choses, et même si tout n'est pas fait. Et donc oui, voilà, je me demande si tout d'un coup, c'est ce qu'exprime cette citation, on ne peut planter ses racines dans une terre qu'à condition que le surnaturel vienne baigner ses racines pour les faire croître. Il n'est pas possible de se passer de l'inspiration chrétienne, comme le dit Simone Veil. Enfin, tout son objectif est... Bon, c'est clair, pour elle, cette tragédie qui s'est déroulée entre 40 et 45 est une guerre de religion. Bon, je ne suis pas forcément d'accord sur ce point avec elle. Nous avons perdu la dimension du sacré, et voilà où nous en sommes conduits. Alors, pas simplement la guerre, mais la crise de société, crise de la culture, etc. Bon, et le seul moyen d'y remédier, c'est pour Simone Veil de revenir aux valeurs du passé, et à la plus importante d'entre elles, me semble-t-il, à ses yeux, à savoir l'inspiration chrétienne. Ce beau mot d'inspiration, d'ailleurs. Donc c'est ça que j'ai voulu... C'est bien pour ça que j'ai mis cette citation en exergue. C'est pour soutenir cette idée, encore une fois, par-delà le réel, par-delà ce que nous appelons réel, et qui pour Simone Veil n'est pas le vrai réel, mais est un ersatz de réalité, c'est son expression, par-delà cet ersatz de réalité, il existe un autre réel au-dessus.
Dans lequel elle s'enracine.
Dans lequel
elle aime trouver ses racines.
Elle s'enracine.
Sylvie Veil.
Nous sortons donc des livres presque en même temps. Celui de Laure est sorti en automne, le mien le mois dernier. Et j'ai été absolument frappée par le côté vivant du livre de Laure. J'avais l'impression, et alors c'est drôle parce qu'il s'agit de ma famille tout de même, j'avais l'impression que Simone, c'était quelqu'un que je pourrais rencontrer au bistrot du coin si je descendais y prendre mon café, que tout d'un coup, voilà, il y avait Simone qui allait à la plage, Simone qui se bronzait, Simone qui faisait...
Qu'elle est dans les boîtes de nuit.
Je crois qu'elle n'y est pas allée très très souvent.
Non, je crois pas
que ça a été une activité
très
fréquente. Mais ça a été cette impression-là. Et j'ai tout de suite téléphoné à Laure, j'ai lu le livre et j'ai appelé, j'ai dit mais c'est extraordinaire et j'aimerais qu'on parle ensemble parce que moi je crois que mon livre n'est pas triste d'ailleurs dans l'ensemble, on me dit qu'il n'est pas du tout triste, mais Simone c'est la morte. Et j'avais donc cette surprise en lisant le livre de Laure, qui était pour moi une lecture extrêmement agréable, mais j'ai l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre d'une certaine manière, parce que pour moi c'est la mort essentielle. Je suis née dans la mort de Simone, je suis née l'année de la mort de Simone, mais surtout elle est la morte. Et donc il me semblait qu'il y avait un échange possible entre nous parce que j'avais l'impression qu'on était les deux faces d'une médaille.
Simone Veil, c'est la lumière, c'est le courage, c'est la force de l'intelligence, c'est l'engagement, c'est aussi cette espèce d'inventeuse de concepts qui a toujours été complètement collée à la vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais, contrairement à certains intellectuels du XXe siècle, qui ont voulu penser le monde, mais qui ne l'ont pas éprouvé, qui ne l'ont pas expérimenté.
Laure Adler, vous nous confiez que La pesanteur et la grâce a été votre livre de chevet.
Oui, comme beaucoup de jeunes filles, c'est très banal.
Et vous avez même appris par cœur des fragments. Et...
Ça aussi, voilà, très banal. Et
voilà. Mais alors, justement, qu'est-ce qui n'est plus banal dans votre relation avec Simone Veil? Comment ce compagnonnage, vous l'avez vécu tout au long de ces années, ce parcours, fait d'épreuves, fait de joie, comme la vie de tout un chacun? Comment est-ce que Simone Veil vous a accompagné et quelle redécouverte avez-vous faite de son œuvre, de ses idées?
Alors Sylvie vient d'expliquer de manière magnifique et argumentée sur le plan philosophique et politique à quel point cette femme était exceptionnelle. Moi, mon ambition est très modeste. C'est vrai que je suis tombée en amour avec Simone Veil après l'avoir fréquentée pendant la fin de l'adolescence à un moment où on a un peu des coups de blues et où effectivement elle a nourri... Elle a nourri ma pensée, mais pas seulement aussi ma pensée, c'est-à-dire qu'elle m'a apaisée. Et il y a très peu d'écrivains qui m'ont procuré cet effet, je crois que c'est la seule, qui m'a permis de traverser une crise comme ça, comme on en a souvent, une crise existentielle assez profonde. Je ne crois pas d'ailleurs avoir compris, je n'ai pas la prétention encore aujourd'hui d'avoir compris la pensée de Simone Veil, mais c'est quelqu'un dont les textes m'ont nourri intérieurement, moralement et psychiquement. Et puis après, je me suis éloignée d'elle sans l'avoir véritablement oubliée, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de Simone Veil, contrairement à Sylvie, courtine de Namy. Ensuite, je suis retombée sur elle. Et là, ce livre n'a qu'un seul but, c'est un exercice d'admiration. Et pour essayer de faire en sorte que des gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, aillent lire Simone Veil, parce que Sylvie Courtine de Namy et Sylvie Veil va nous le dire maintenant, à quel point sa force, sa personnalité, son ambition, sa carrure intellectuelle sont d'une actualité ô combien contemporaine. Je trouve que par rapport à ce que nous vivons en ce moment, tant au niveau de la perte des valeurs, que du dérèglement financier, que de la mondialisation, que des problèmes moraux, que des problèmes psychiques, que de l'antagonisme entre individus et collectivités, où est passé l'esprit de communauté, que veut dire être en recherche et l'esprit de la recherche aujourd'hui. Bref, quand on lit ces textes, Sylvie Courtine de Namy l'a dit, mais Sylvie Veil le dit admirablement dans son récit, c'est quelqu'un d'une luminosité absolument incroyable et c'est quelqu'un qui, je trouve, est tombé dans un puits noir dans l'histoire de la pensée contemporaine. On ne l'étudie plus au lycée, on ne l'étudie plus à l'agrégation, on ne l'étudie plus dans les cours de philosophie à la Sorbonne. Je ne comprends pas pourquoi. Je me suis posé la question. Alors, il y a plusieurs pistes qui peuvent peut-être éclairer. Il y a une autre Simone qui, elle, a vécu très longtemps et qui a pu défendre ardemment ses pensées et ses thèses et qui était ancrée dans plusieurs terrains politiques et qui a pu être associée à des mouvements comme 68, comme la libération des femmes. Je parlais bien sûr de Simone de Beauvoir. Moi, ce que j'aimerais, et Sylvie, encore les deux Sylvie sont là pour le dire, c'est à quel point cette figure intellectuelle du XXe siècle doit de nouveau ressortir. Voilà. Et qu'on la lise.
Un travail de transmission, de communication de ce que vous-même avez éprouvé et que vous souhaitez communiquer.
C'est un coup d'amour. Voilà,
un coup d'amour. Un coup d'amour. Et justement, si vous deviez analyser ce coup d'amour, il se base sur quoi? Sur l'attitude de Simone Veil dans quelles circonstances, dans quel moment de sa vie? Ça se passe à quel niveau? Car c'est une personne qui a énormément de facettes, qui est multiple, qui rebondit, qui se métamorphose, qui se réforme et qui nous fait comme ça cadeau d'une multitude de réflexions. On la voit notée dans ses carnets, comme on l'a vu, comme on l'a bien expliqué quelques instants auparavant. Donc c'est quelqu'un qui n'a de cesse que d'être en activité, de communiquer, de donner, de s'interroger. Vous, personnellement, quelles sont ces idées, quelles sont ces mises en route, ces combats qui vous parlent le plus? Vous qui avez interrogé nombre de politiques et des décisionnaires.
Je crois que Sylvie Courtine de Namy l'a très bien dit tout à l'heure en expliquant à quel point elle a eu beaucoup de courage. Sylvie Courtine de Namy a employé ce mot à deux reprises. C'est vrai que c'était quelqu'un de très courageux qui expérimentait sa pensée à l'aune de sa propre expérience. Quand elle voulait essayer de comprendre quelque chose, elle y allait physiquement et pas seulement du haut de sa tour d'ivoire. Et oui, D'autre part, dans le diagnostic effectivement du monde politique qu'elle fait, dans l'enracinement, effectivement, il y a des pistes là aussi ô combien contemporaines pour comprendre la faillite du politique et des pistes que les hommes politiques et les femmes politiques devraient essayer de mettre concrètement en œuvre, parce que ce qu'elle essaye de trouver, c'est effectivement le lien de soi aux autres, des autres à soi. Et j'aimerais bien entendre la voix de Sylvie Veil, parce qu'elle va pouvoir nous raconter dans le livre lumineux, dans un livre d'écrivain que je trouve d'une écriture pleine de grâce, de poésie, de tendresse, combien Simone Veil a été quelqu'un qui, effectivement, n'arrêtait jamais de penser, ça c'est absolument fou, au mépris de son corps et au mépris de son sommeil. C'était une espèce de machine absolument en permanence, en activité.
Oui, Sylvie Veil, Laura Adler l'exprime très bien. Comment a-t-elle trouvé l'énergie vitale, psychologique,
oui, mais Sylvie,
intellectuelle?
Sylvie l'explique beaucoup mieux que moi.
Non, elle la compare à un volcan en feu. Quand on pense à ses textes si riches, etc., etc., elle pose la question, mais elle est sans arrêt sur le front. C'est une personne
comme
qui est sans arrêt sur le front.
C'est-à-dire comme le père de Sylvie.
Oui, c'était des gens qui n'arrêtaient pas, d'une certaine manière. Enfin, je n'ai pas la réponse à cette activité constante de ma tante. Je ne puis que la constater, comme vous. C'était quelqu'un qui consacrait ses nuits à écrire. Je n'ai vraiment rien...
L'éducation, quand même, dont vous parlez beaucoup dans votre livre.
Oui, l'éducation comptait énormément, ne pas perdre son temps. Et d'une certaine manière, ma grand-mère a éduqué ses deux enfants d'une façon forcenée. C'était des cours particuliers. Quand mon père, qui était déjà très en avance dans je ne sais plus quel lycée, comme il est rentré un jour, il a dit que la composition de français avait été facile. Et ma grand-mère s'est précipitée chez le directeur pour dire « il faut mettre mon fils dans la classe supérieure parce que s'il a une bonne note et qu'il me dit que ça a été facile, c'est que c'est pas bien, donc il faut. Et il y a eu une sorte de forcing, mais en même temps, dans la joie, enfin, ça n'a pas été quelque chose de triste.
De contraignant, de trop contraignant.
Non, pas de contraignant. Et puis c'est vrai que mon père a commencé à lire des maths assez compliquées à l'âge de 7 ans et qu'il les lisait par distraction et que même ma grand-mère, il y a des lettres où elle s'inquiète. Elle dit, mais je crois que c'est pas de son âge, ça va peut-être retarder son développement, ça va lui faire du mal. Je ne sais pas si je devrais le laisser faire ça.
Et c'est, bref,
mon père,
c'est un génie.
C'est mon père qui a écrit à lire, appris à lire à sa petite sœur. Et oui.
Le génie était bicéphale, écrivez-vous, Sylvie Veil. Mon père avait un double féminin, un double fantôme, voilà. Car en plus d'être une sainte, ma tante était un double de mon père, à qui elle ressemblait comme une jumelle. D'ailleurs, cette photo en témoigne.
C'est vrai, et, oui. Voilà. Ils avaient une existence de jumeaux.
Et la nièce ressemble à Simone. Et d'ailleurs, elle en a beaucoup souffert.
Quelle découverte,
elle pose la question.
Alors, vous avez vu ça dans mon livre, n'est-ce pas?
Comment vivre aux côtés de pareils génies? C'est toute l'affaire d'une vie que vous développez dans ce livre, effectivement.
Bah, être la nièce d'une sainte et d'un génie, c'est compliqué.
C'est difficile à assumer.
Il y a quelque chose qui de très extraordinaire qui reste dans leur sillage. C'est l'idée que le monde est beau. Et ça, Simone, là aussi, on a beau travailler tout le temps, ne pas dormir, fumer constamment et se tourmenter et finalement se laisser mourir de faim, le monde est beau. Et ils avaient ça tous les deux. Et il fallait voir ce qui était beau. Il ne fallait pas perdre son temps. Il ne fallait pas lire des bandes dessinées stupides. Encore que mon père a fermé les yeux quand je disais Tintin, quand j'étais petite.
Mais c'est pas stupide, fallait... Tintin.
Bon, en fait, j'ai adoré Tintin, comme tout le monde. Mais il fallait aller au musée voir des choses belles. Il fallait penser des choses belles. Il fallait lire des choses belles. Et je suis sûre que Simone avait cela aussi. Et je pense que ça leur venait de leur grand-mère. Et puis, ils s'éduquaient entre eux, les deux. Ils se tapaient, ils se récitaient des grandes tirades de Racine et de Corneille, mais tout petits, à 8 ans, 11 ans, et ils se donnaient de grandes gifles quand ils faisaient des erreurs.
Alors, ce qui est extraordinaire dans le...
C'est un jeu comme un autre.
Oui.
Ce qui est extraordinaire aussi dans le parcours de Simone Veil, et Sylvie Courtine Denamy l'a rappelé magnifiquement tout à l'heure, mais Sylvie Veil l'explique aussi de manière à la fois très drôle, très émouvante et très tendre. C'est comment Simone Veil a essayé d'ignorer ses racines juives. Et j'ai appris dans le livre de Sylvie Veil qu'en fait, elle avait été baignée complètement dans son enfance, à la fois par une grand-mère et à la fois par des prénoms, une espèce d'océan de sensualité juive. Et Sylvie Veil, qui a été quand même baptisée à cause de sa tante, parce que c'est la tante qui a exercé son influence sur votre père,
oui,
Sylvie.
Et qui m'a fourgué un baptême
baptisée.
Dont elle ne voulait pas pour elle.
Voilà, exactement.
Et Sylvie revient
à ses sources. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Ouais. C'est le cycle.
La boucle.
Mais je
la
suis
boucle.
Contente que vous mentionniez l'enfance, parce que c'est vrai, la grand-mère dont on a fait une terreur, et maintenant, alors ça se répand, chacun reprend, mais oui, la grand-mère juive était terrifiante. Elle n'était pas terrifiante. Et je pense qu'il y a eu une histoire de belle-mère et de belle-fille. Ma grand-mère n'aimait pas sa belle-mère et a raconté que c'était une grand-mère absolument terrifiante. Or, c'était une grand-mère qui adorait Simone, qui l'appelait Simone Le, dont la pratique juive était celle d'une vieille dame et donc n'avait pas... Peut-être qu'elle vérifiait qu'on ne faisait pas de cuir de jambon dans sa casserole, oui. Mais enfin, je pense qu'il n'y avait pas de quoi traumatiser la petite Simone, comme on a bien voulu le dire. Mais cette question du déracinement dont parlait Sylvie Courtine est très très intéressante, parce que je crois tout de même que Simone a été une déracinée, et elle a été, moi je ne parle pas d'un point de vue philosophique, je parle vraiment comme dans mon livre, d'une façon concrète et familiale. C'est une famille de déracinés. Du côté de sa mère, ce sont des gens qui vont de Brody, de Bergejani, de Lemberg à Rostov-sur-le-Don, en passant par Tarnopol et Vienne, et ensuite qui vont à Anvers. Le frère aîné de ma grand-mère meurt, le frère adoré meurt à 20 ans. Je pense que ça a joué énormément sur l'avenir de la famille. Et le non-dit, le deuil non-dit dans cette famille, parce qu'on ne parlait pas vraiment du frère Félix qui était mort, et ma grand-mère avait 17 ans et adorait son frère aîné. À la suite de cela, la famille ne supporte plus leur maison d'Anvers. Ils vont vivre dans un hôtel. Ensuite, ils viennent à Paris. Mon grand-père alsacien était peut-être un peu plus enraciné, sauf qu'il vient d'un pays où il a été allemand et puis français, puis allemand et puis français. Il a servi sous les drapeaux français, mais on n'envoyait pas les Alsaciens au front parce que les Allemands les auraient immédiatement fusillés s'ils les avaient pris. Donc, il y a une sorte de déracinement, je dirais, de naissance.
De schizophrénie, de double bagne, comme disent les psychanalystes.
Enfin, pas de schizophrénie, moi j'ai tout ça, de fêlure et de déracinement essentiel.
Enfin, Simone n'a connu l'exil que trois ans, de 40 à 43. Hein. L'exode à Marseille, beaucoup l'ont partagé pendant 2 ans.
Oui, mais elle vient de parents déracinés.
J'entends bien, mais tu en fais une prédestination.
Pas une prédestination, mais les gens portent ça en eux. Je suis persuadée que Simone n'est pas un champignon, elle n'est pas née de rien.
Ah, mon champignon chez
moi. Non, mais le champignon sur l'humus.
Non, c'est comme ça.
Elle n'est pas née de rien, mais je pense qu'on est ce qu'on vit et pas simplement ce que les parents vous ont fait être.
Sylvie, vous avez écrit un livre magnifique sur Eretz Israël où vous racontez comment le déracinement constitue l'identité.
La meilleure preuve en est qu'elle dit on n'hérite pas d'une religion. Pourquoi veux-tu lui faire hériter de choses
qu'elle dit n'est une preuve de rien du tout. Elle dit qu'elle n'hérite pas d'une religion.
Elle ne lit pas ses
Elle est libre de le penser.
Moi, je crois mes auteurs, je crois ce que disent mes auteurs.
Mais pas elle.
Pas moi.
Pas Sylvie.
Pourquoi ce refus du Premier Testament ?
Bah, je m'interroge.
C'est dingue, ça. C'est complètement givré.
Non, mais tout le monde continue à s'interroger. Et ses commentateurs les plus indulgents à son égard sont unanimes pour dire qu'elle n'a pas bien lu. Elle connaissait pas forcément bien tout ce dont elle a parlé. Je veux dire, son champ d'études, d'investigation est immense. Elle est morte à 34 ans. Comment voulez-vous supposer qu'elle ait pu approfondir profondément, si j'ose me permettre cette expression idiote, chaque chose? Donc il est clair que l'Ancien Testament, elle l'a lu très vite avec des partis pris, des a priori. Maintenant la question c'est de savoir pourquoi ces a priori, et est-ce qu'elle en reste à ces a priori ou est-ce que c'est plus grave?
En tant que vous traductrice de l'œuvre d'Anna Arendt, Sylvie Courtine de Namy, vous aussi amoureuse de cette allemande juive Laura Adler et en compagnonnage aussi avec ses écrits, est-ce qu'on ne peut pas faire, notamment par rapport à la banalité du mal, à certaines notions, faire un rapprochement entre ces deux esprits, entre ces deux mises en route, entre ces deux chemins?
Ah bah, écoutez, je l'ai fait, ça s'appelle « Trois femmes dans deux sombres temps », Edith Stein, Anna Arendt, Simone Veil, ça a 10 ans, c'est un livre de poche.
Et c'est un très beau livre.
J'ai fait cette mise en parallèle entre trois femmes philosophes juives sur la décennie 1933-1943. Quels sont leurs engagements respectifs? Quelles sont leurs idées?
Edith Stein s'est convertie, Anna Arendt n'a jamais changé de religion, et Simone Veil non plus, finalement.
Mais non, elle n'en avait pas.
Peut-être. Peut-être c'est ça.
C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est ce qu'elle dit. Moi, je m'en tiens à ce que mes auteurs disent. Je vais pas faire de la psychologie. J'en suis pas capable. Je suis pas. C'est pas mon métier. Maintenant, j'ai toujours pas. Enfin, je crois que personne n'a répondu à la question de savoir pourquoi cet anti-judaïsme. Pourquoi cet anti-hébraïsme d'abord et pourquoi cet anti-judaïsme? Bon, Raymond Aron va jusqu'à parler d'antisémitisme, moi je n'irai pas. Jusque-là, je connais le poids des mots et pour moi l'antisémitisme, même si le mot même d'antisémitisme est très mal formé puisqu'il ne désigne pas spécifiquement la haine des juifs mais la haine des sémites, or que je sache il y a d'autres peuples sémites que les juifs, bon, mais réservons ce mot d'antisémitisme qui est d'origine tout à fait récente et qui est dû à un journaliste Wilhelm Marr à la fin du 19e siècle. Admettons qu'il désigne ce qu'on a connu avec la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Alors, je veux dire, à aucun moment Simone Veil n'appelle, que je sache, à la haine raciale. Hein, bon, ceci dit, on peut. La question que je me pose, que je n'arrive pas à résoudre, et personne n'a réussi à me convaincre, et personne ne comprend, je crois, c'est pourquoi une compassion qu'elle étendait à l'univers tout entier, Simone de Beauvoir raconte qu'elle annonce, enfin je ne sais plus si c'est Simone de Beauvoir ou Aron, enfin, oui, ils racontent quelque chose tous les deux à propos de la Chine d'un pays lointain. Manifester sa compassion également à l'égard de tous les problèmes coloniaux, décolonisés, des Indochinois à Marseille, etc., en faveur desquels elle s'entremet. Pourquoi cette compassion ne s'étend-elle pas aux Juifs? Elle savait. On a dit beaucoup, Mais on savait pas à cette époque-là, on savait pas encore. Il faut pas voir avec le regard de maintenant.
L'été 42, on sait.
Or, je suis désolée, Simone Veil sait, elle le dit, elle l'écrit. L'édition admirable des Cahiers de Marseille, enfin toute l'édition admirable
de Florence de Lucie,
sous la direction de Florence de Lucie, et dans les Cahiers de Marseille, on voit qu'elle est parfaitement au courant de ce qui se passe. C'est très désagréable à lire. Elle parle, par exemple, des Juifs de Rhénanie qui, arrivant au camp de Gourse, je crois que c'est à Gourse, auraient demandé à faire cirer leurs bottes pour parler de la morgue des Juifs de Rhénanie. Elle aurait pu s'épargner ça, je veux dire, mais par-delà, elle était très provocatrice, mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer tout de même, surtout à cette époque-là. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je m'interdis absolument de recourir à ce faux concept qu'est, à mes yeux, la haine de soi. Parce que c'est un faux concept, ça ne veut rien dire du tout. On dit la haine de soi juive. Je ne vois pas pourquoi les juifs auraient plus de haine à l'égard d'une partie de ce qui constitue leur être que les chrétiens ou les musulmans. Tout le monde peut détester une partie de soi, que ce soit sa féminité. On a aussi dit, je l'ai dit aussi dans Mes trois femmes, que Simone Veil n'arrivait pas à s'accepter en tant que femme, qu'elle aurait voulu être un garçon, et on en a bien des preuves. Bon, mais je ne vois pas en quoi la haine de soi serait d'abord spécifiquement juive. Ensuite, de quoi ça n'explique rien. Et enfin, pour faire preuve de haine de soi, encore faut-il avoir reconnu son identité comme juif. À aucun moment, Simone Veil ne déclare « je suis juive ». Elle le sait de par son nom. Elle est rattrapée par ses ascendances à cause du statut de Vichy qui l'exclut, qui fait d'elle une paria, une sudra, comme elle dit à plusieurs reprises. Bon, ça, bien sûr qu'elle le sait, mais ça ne doit pas lui faire plaisir, ça fait plaisir à personne. Alors, on a beaucoup dit « elle se soumet ». Et que voulez-vous faire d'autre ? Elle ne se soumet pas tellement, puisqu'il y a cette phrase formidable que je trouve où elle dit « je préfère aller en prison qu'au ghetto » quand elle ne veut pas aller se faire recenser. Donc voilà, ça reste une énigme. Quelqu'un qui est assez proche de son œuvre et d'elle, n'a pas besoin de dire son nom, m'a dit un jour « elle a pété les plombs ». C'est
oui.
C'est pas très satisfaisant comme explication. On voudrait aller plus loin.
Non, mais il y a la phrase d'Emmanuel Lévinas, justement, dans le quarto de Florence de Lucie, qui, je le cite de mémoire, donc vous allez me corriger, qui dit « mais on dit que Simone Veil est antisémite, mais on ne peut pas le dire, puisque Simone Veil ne connaissait rien de l'histoire juive. »
Enfin, pardonnez-moi, ce n'est pas le point. Ce n'est pas sur la base de la religion. L'antisémitisme n'attaque pas les juifs sur la base de la religion. Il attaque les juifs sur la base d'une conception biologisante de la race. C'est en cela qu'Hannah Arendt est tout à fait infiniment plus lucide que d'autres penseurs de son temps et que Simone Veil, ça, ce n'était pas difficile. Quand elle diagnostique précisément dans l'avènement des totalitarismes, non pas la poursuite de l'éternel anti-judaïsme fondé précisément sur la religion, mais quelque chose de sans précédent, de radicalement nouveau, qui rompt avec toutes nos catégories et qui prétend s'étayer sur un certain nombre de théories de la race.
Mais elles n'ont pas vécu les mêmes événements aussi.
Théorie de la race.
Elle est morte en 43, Simone.
Oui, je sais bien, mais et alors ? J'ai pas entendu.
Je veux dire, elle n'a pas vécu tout ce qu'on a appris après avec l'avènement des totalitarismes.
Non,
elle
n'a
pas
mais...
eu cette matière d'événements. Penser l'événement, c'est le titre d'un livre de Hannah Arendt. Elle n'a pas eu toute cette matière pour pouvoir penser. Peut-être qu'elle aurait, on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais peut-être que ça l'aurait beaucoup fait réfléchir. Vous voyez,
oui,
moi
non,
j'ai l'impression que c'est une étoile filante qui s'est brisée comme ça,
enfin,
justement,
Arendt,
sans racines célestes.
Hannah Arendt, dès 1933, en Allemagne, sait qu'il lui faut fuir et qu'on est placé là devant quelque chose d'épouvantable.
Et Simone Veil, en 1932 ou en 1933, d'ailleurs, va en Allemagne, à Berlin.
Et elle n'est pas consciente.
Elle n'est pas consciente, mais elle écrit ce texte d'impression d'Allemagne qui est quand même absolument bouleversant. Elle comprend le délitement de la société.
Certes, mais
vraiment
pas,
la manière dont Hitler
interdit
le lien entre les êtres, etc.
Elle écrit noir sur blanc qu'elle ne perçoit aucune montée de l'antisémitisme. Elle n'est pas la seule. Sartre n'a rien vu. Aron non plus.
L'insoumise, bon. C'est le titre que vous donnez à votre livre, Laura Adler.
L'insoumise, vous voyez, ça nous fait parler,
en résistance par rapport à tellement de choses, mais en totale soumission à Dieu. Alors là, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est une transformation. C'est carrément une mutation complète chez cet être-là, non ?
Non, pas du tout. La vertu d'obéissance est présente chez Simone Veil très tôt. Je veux dire, tous les textes concernant le travail, c'est-à-dire la soumission à la nécessité, sont très précoces, sont des années 30.
Avec cette acceptation de la douleur à la base ?
Bien sûr, il y a cette fameuse, j'ai plus la citation... C'est dommage parce qu'elle écrit une si belle langue, c'est dommage de ne pas retrouver les citations exactes. Mais enfin, il y a la citation de la fameuse lettre à Antonio, ce jeune prisonnier espagnol au camp du Vernet qu'elle n'a jamais rencontré mais qu'elle soutient par ses lettres, où elle lui dit qu'il faut accepter tout ce que la destinée apporte, que quand bien même fût-ce le malheur. C'est ce que j'avais appelé, c'était le sous-titre de mon livre « Trois femmes dans de sombres temps », c'est ce que j'avais appelé la mort Fati, par opposition à la mort Mundi, dont ferait preuve plutôt Hannah Arendt.
Mais pourquoi va-t-elle sur le front ? Pourquoi va-t-elle se battre ? Parce qu'il y a une fatalité qui nous écraserait, une fatalité qui serait donnée...
Elle est quand même animée par le sentiment de justice, et quand elle rejoint la colonne de Durruti de l'autre côté de l'Èbre, et qu'elle se bat, je crois pas qu'elle se soit battue, mais enfin bon, qu'elle est prête en tous les cas à se battre, c'est animé du sentiment de la justice, et ça, il n'est pas question de laisser triompher les troupes espagnoles. Je vous disais tout à l'heure, quand vous m'interrogiez au début de cette interview, que Simone Veil était quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre racine, c'est-à-dire au fond à dire nous, à faire partie d'une collectivité, d'un corps, quel qu'il soit, pas même le corps de l'Église, pas même le corps mystique de Dieu. Elle refuse cette idée de corps. Bon, eh bien c'est un mouvement parallèle qui fait qu'elle refuse le « je », au même titre que le « nous ». Elle refuse le « je », elle se détache progressivement de la réalité, qui est un ersatz de réalité, qui est un fantôme de réalité à ses yeux. Et le détachement est la condition pour elle d'accéder au transcendant. Et ce n'est même pas d'y accéder, c'est se vider de soi-même, de manière à ce que Dieu puisse venir vous remplir. C'est ce qui explique, par exemple... J'ai lu dans le livre de l'or, mais pas seulement de l'or, à plusieurs reprises, le mot d'anorexie. Alors encore une fois, moi je ne suis pas psychiatre, l'anorexie je n'en ai entendu parler que par les médias, s'agissant des pauvres mannequins qui ne mangent pas assez pour soi-disant pouvoir présenter les modèles, donc je n'y connais rien. Mais il y a une phrase qui me paraît beaucoup plus intéressante que ces histoires d'anorexie, concernant le fait que Simone Veil cesse de manger, non seulement, comme on l'a vu et comme on l'a dit beaucoup, et c'est certainement vrai, pour partager le sort de ses compatriotes, et donc elle ne mangeait plus que la ration dévolue à un petit enfant, il y a une phrase qui est beaucoup plus éclairante, me semble-t-il. Une fois tout le désir tourné vers Dieu, quand on a faim, on ne désire pas manger. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'elle se défait, elle ne préconise pas pour tout le monde le sort qu'elle endure pour elle-même, mais il faut se déprendre de tout, il faut se délester de tout mobile, de tout motif. Alors, à ce moment-là, si on est très 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 attentif, l'attention est une vertu capitale chez Simone Veil, il est extrêmement difficile à atteindre certainement, donc si on est extrêmement attentif, si on reste immobile sur le seuil de l'église en attendant celui qu'on attend, peut-être qu'il consentira à venir.
Tu dis qu'elle voulait faire partie d'aucun corps, mais enfin elle voulait faire partie du corps des infirmières de première ligne.
C'est vrai.
Un corps qu'elle choisit de façon assez intéressante et aller faire la femme là, au milieu du champ de bataille pour impressionner les soldats de la Wehrmacht.
Tu as raison. Bon, tu as raison. Elle aurait voulu faire partie d'un corps.
Elle voulait faire partie du moment que c'était des corps qui risquaient de se faire descendre au plus vite.
Oui, oui. Bon, ça, c'est son désir de se porter au front, d'être toujours exposé au danger.
Et puis, je suis tout aussi agacée que toi quand on parle trop d'anorexie. Mais le fait est que Simone, et on en parlait quand même beaucoup dans la famille, a eu, dès l'adolescence, un problème énorme avec la nourriture.
Oui, non, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comment Simone Veil l'exprime elle-même.
Oui, c'est très beau elle l'exprime de façon tout à fait
encore
magnifique.
Encore une fois, moi, je m'en tiens à ce que dit mon auteur. Je ne saurais rien de sa vie. Enfin, bon, si, on est ce qu'on vit, bien sûr. Bon, c'est tout à fait probable et certain, puisque tu le dis. Mais bon, enfin, je trouve que cette phrase explique bien des choses.
Elle pensait aussi que les autres devraient moins manger, parce qu'au début de la guerre, elle est encore à Marseille. Elle écrit cette lettre, je ne sais plus, à Lehigh, je crois, qui était chargée de ravitailler la France libre de la part des Américains. Et elle dit que les Américains devraient bien cesser de ravitailler la France, que les Français n'avaient qu'à serrer la ceinture et arrêter de penser à manger. Si on avait quelques enfants à nourrir, c'est évidemment pas très pratique, mais bon.
Un entre-deux, entre un détachement certain et puis une joie de vivre, un amour de la vie qu'elle vous a communiqué, Laura Adler, ou un renoncement
Pas du tout un renoncement, non. Sylvie Veil l'a exprimé tout à l'heure, et Sylvie Courtine aussi, de manière différente, mais qui converge. C'est quelqu'un qui avait un amour de la vie modéré, qui regardait le monde les yeux grands ouverts pour essayer d'y prendre tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait de beau, toute la lumière du ciel qui avait... Quand elle part en Italie et qu'elle tient son journal, et qu'elle va dans les musées, quand elle regarde les paysages,
et la musique,
tout ça,
elle aimait
et
la
l'amour
musique,
de la musique, etc., etc. Et puis je crois qu'elle a... Enfin bon, c'est vrai que c'est terrible qu'elle soit morte à 34 ans. Elle laisse une œuvre absolument considérable et qu'il faut absolument lire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou relire pour celles et ceux qui l'ont un peu abandonnée. Mais il n'y a que l'amour de la vie à l'intérieur de ces textes, je trouve.
Oui, je le pense.
Sur ces mots de l'amour de la vie, nous nous quittons. Merci à toutes les trois d'avoir participé devant les micros de Canal Académie à cette émission consacrée à la philosophe française Simone Veil. Merci.